On dirait qu'il a connu l'enlèvement, louez le Seigneur. C'est peut-être l'année, amen. Ceci pourrait être l'année où le Seigneur vient pour nous. Louons le Seigneur. Êtes-vous prêts? Amen. Pour être toujours fort, toujours en bonne santé, toujours jeune dans ce nouveau corps. Quand il viendra nous chercher, c'est la seule chose qui n'est pas encore accomplie. Amen. Toutes ces promesses, elles peuvent toutes s'accomplir pendant que nous sommes de ce côté-ci du ciel. Mais quand l'enlèvement aura lieu, quand Jésus viendra nous chercher, quand il lancera l'appel sans prévenir, nous serons alors tous transformés, comme lui, dans un corps glorieux et ressuscité. Amen. Louez le Seigneur. Bonne année à tout le monde. Bonne année 2023. Alors que nous pensons à cette année, nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve. Mais nous connaissons celui qui portera l'année. Nous n'avons qu'à mettre notre main dans sa main, car il sait tout. Il nous a devancés, vous savez. La Bible dit à maintes reprises, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. » L'Éternel marchera lui-même devant toi. Vous savez, une fois David doutait, il fuyait le roi Saül. Et les ennemis arrivaient pour attaquer les rangs d'Israël. Mais ensuite, il a dit ceci. Dieu dit, attends. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, c'est l'Éternel qui marche devant toi. Dépêche-toi. La bataille appartient au Seigneur. Amen. Ainsi, le Seigneur marche devant vous. En 2023, il redresse tous les chemins tortueux, déjoue les stratagèmes de l'ennemi. Il prendra soin de vous et vous protégera de tout cela. Amen. Il y a une belle phrase dans la Bible qui parle de la façon dont le Seigneur prend soin de nous du début à la fin de l'année. Maintenant, dans le contexte ici, il s'agit de la sollicitude de Dieu pour la terre d'Israël. Bien sûr, Dieu a préparé la terre pour son peuple. Amen. C'est une image de son amour et de son attention pour son peuple. Ici, il est dit, un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Dites, Dieu prend soin. Amen. Un pays dont Dieu prend soin, sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a constamment les yeux, du début à la fin de l'année. Du début de l'année à la toute fin de 2023. Les yeux de Dieu sont sur vous. Qu'importe la terre dont Dieu se souciait, Dieu se soucie encore plus de vous. Amen. Si Dieu prend soin des moineaux qui tombent par terre, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Il est certain que Dieu prend soin de vous, chacun de vous. Amen. Et ses yeux sont sur vos familles et vous, du début à la fin de l'année. Amen. Nous devons seulement réaliser que Dieu ne pose pas sur nous son regard pour voir nos fautes. Amen. Dieu ne critique pas celui qui croit. Louons le Seigneur. Amen. Il nous conduira et nous guidera dans les domaines où nous commettons des erreurs, où nous ne sommes pas à la hauteur. Il nous dirigera. Il nous aidera. Et nous voulons aussi être aidés. Nous ne voulons pas continuer à faire de mauvaises choses, n'est-ce pas? Mais son regard n'est pas sur nous pour voir des fautes. Amen. Ses yeux sont sur nous pour nous bénir, nous favoriser, nous conduire, nous guider, nous protéger, pour subvenir à nos besoins tout au long de cette année. Puis-je avoir un bon amen? Et pendant que je me préparais pour le message, pour entendre ce que Dieu veut dire à son peuple cette année, pour lancer l'année, parce que ce sera l'année du... Oui, vous en entendrez parler dimanche prochain, le dimanche de la vision, le thème de l'année. Et je suis tellement excité parce que j'ai eu la révélation pendant mes vacances. Et quand je l'ai reçue, j'étais tellement excité que j'ai dû me garder fortement de le dire à ma famille en premier lieu. Amen. Mais j'ai commencé à voir de plus en plus ce que Dieu faisait. Maintenant, ce n'est en aucun cas... En fait, pour le monde, ce sera une année sombre, une année lamentable, parce qu'il y a tellement de menaces. Exactement comme Jésus l'a dit, tout cela confirme la parole de Dieu. Et ce que Jésus a dit quand il dit qu'il y aura des fléaux, nous venons de voir cela se produire il y a quelques années de cela. La pandémie, les fléaux, les maladies. Et puis, il parle de famine. Les famines, c'est la récession, amen. Et nous nous embarquons dans une année, je parle de la nature, pas du peuple de Dieu, bien entendu. Dans une année de récession, amen. Pour vous, peuple de Dieu, Dieu pourvoit, Dieu vous surveillera du début à la fin de l'année. Amen. Et vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, des rumeurs de guerre. Jésus a dit cela. Nous voyons cela se produire. Même hier, si vous regardez les nouvelles d'hier, vous avez vu qu'il y avait des missiles lancés par une nation. N'est-ce pas? Quelle façon de célébrer le nouvel an! Des pétards, je comprends. Des missiles, je ne comprends pas. Vraiment pas. C'est vraiment les bruits de guerre, les guerres et les menaces de guerre dont parlait Jésus. Puis il dit, « Relevez la tête, quand vous voyez ces choses arriver, ne vous découragez pas, dit Jésus. Relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. » Maintenant, de quelle rédemption s'agit-il? Car une fois que vous avez été sauvés, vous êtes rachetés, amen, par le sang de Jésus. Quelle est cette rédemption dont parle notre Seigneur? C'est votre rédemption corporelle. C'est votre rédemption corporelle. Vous voyez, de ce côté du ciel, nous savons que même les croyants souffrent le même sort physique que les non-croyants. Oui, nous croyons en Dieu pour la guérison, mais nous ne serons pas au mieux que nous puissions être tant que nous n'aurons pas un corps qui ne sera jamais malade, ne sera jamais fatigué, ne vieillira jamais et même ne s'ennuiera jamais. Amen. Comme celui de Jésus quand il est ressuscité. Vous savez, la rédemption de Jésus en la croix a racheté la nature tripartite de l'homme, toutes les trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Permettez-moi de faire une pause ici et de dire simplement ceci. Vous êtes, dites-le après moi, d'accord? Cela vous aidera à comprendre. Bon, je vais le dire en premier. Je suis un esprit. Je ne suis pas un corps. Je suis un esprit. Je vis dans un corps. Je suis un esprit. Si je meurs, je quitterai ce corps. Non, dites-le après moi. D'accord? Je vais vous guider, d'accord? J'ai une âme. Mon âme est ma pensée, mes émotions et ma volonté. C'est mon âme. J'ai une âme. Je ne suis pas mon âme. J'ai une âme. Je suis un esprit. Dieu est un esprit, amen. L'esprit a produit, Dieu a produit tout ce qui est physique. Le physique est plus grand que l'esprit. Non, désolé, l'esprit est plus grand que le physique, parce que le physique a une limite de temps. Vous savez, la chaise est physique, le corps est physique. Tout ce qui est physique peut se décomposer et mourir. Mais l'esprit vit pour toujours. Amen. C'est pourquoi il y a un endroit qui doit abriter l'esprit, le paradis ou l'enfer. Parce que l'esprit de l'homme est cette partie de l'homme que Dieu a insufflée dans l'homme. Quand Dieu a créé son corps, c'était comme un mannequin sans vie, juste un corps. Alors, Dieu a insufflé dans Adam, et Adam est devenu une âme vivante, la chose ultime. Si vous brûlez un corps, n'importe quel corps d'ailleurs, il va retourner à la poussière. Amen. Le sol, d'où Dieu a créé l'homme. Je pense que Dieu a combiné une partie de son être en nous, qui est noble, qui est la plus élevée. Amen. De la création, parce que cette partie est venue de Dieu. Dieu n'a pas fait des animaux avec son souffle. Amen. Dieu n'a pas fait les étoiles, le soleil, la lune à partir de son souffle, mais Dieu l'a fait à partir de lui-même. Il a donné une partie de lui-même à l'homme, qui est son esprit. C'est pourquoi l'esprit est éternel. Amen. Mais nous sommes, parce que nous sommes morts spirituellement, mais c'est l'esprit qui est à l'origine de la matière. Amen. Alors qu'êtes-vous? Vous êtes un esprit. Dites, je suis un esprit. Maintenant, vous pouvez dire, je suis un esprit. J'ai une âme. C'est ma pensée, mes émotions et ma volonté. Je vis dans un corps. Je vis dans cette maison appelée un corps. Maintenant, regardez autour de vous. Regardez toutes les différentes maisons. Regardez tous les différents plafonds. Amen. J'ai une nouvelle pour vous, vous n'avez qu'une seule maison. Prenez-en soin. Une fois que vous êtes parti, vous ne pouvez plus revenir en arrière. D'accord? Je sais qu'ici à Singapour, nous pouvons acheter une maison, voire plus d'une maison. Pour certains d'entre vous, si vous n'aimez pas une maison, vous pouvez en acheter une autre, n'est-ce pas? Mais pour vous, ce corps, cette maison compte plus que n'importe quelle autre maison. Amen. Vous vivez dans cette maison. Prenez-en soin. Vous n'avez qu'une seule maison. Pour vivre. Amen. Que ce soit l'année où vous prenez soin de votre maison. Vous prenez soin de votre maison, laissant Dieu prendre soin de votre maison. Puis-je avoir un bon amen? Alors, quand Dieu a voulu racheter l'homme, quand Adam a péché pour la première fois, en fait, les gens disent, « Eh bien, Pasteur Prince, si Dieu est bon, pourquoi alors toutes les guerres et les famines, tout ça? Ne blâmez pas Dieu, pas plus que vous ne pouvez blâmer le ministre des Transports pour l'accident qui est arrivé sur la route. Amen. Si quelqu'un ne respecte pas le code de la route, la circulation, les réglementations qui sont là pour leur sécurité, vous ne pouvez pas blâmer le ministre des Transports pour l'accident, n'est-ce pas? J'espère que vous comprenez cela. Et si vous voulez voir comment c'est quand Dieu a le plein contrôle sur Terre, il faut revenir à l'époque d'Adam, avant qu'il ne pêche. Adam a vécu dans un Éden parfait, dit la Bible, où tout lui était donné. Tout était voluptueux, grand. Il y avait le nombre et la variété. Dieu a créé l'homme capable de percevoir différents goûts et différentes sortes de fruits, différentes sortes de nourriture pour répondre à ces différents goûts. Dieu a tout prévu pour lui. Tout ce qu'il avait à faire, Dieu l'avait fait éternel pour qu'il puisse profiter de tout ce qui a été créé. C'est à quoi ressemble la vie quand Dieu a le plein contrôle. Pas de maladie. Adam n'a jamais visité un hôpital. Il n'y avait pas besoin de poste de police. Pas besoin de caserne de pompiers, amen. Toutes ces exigences de la vie et tous ces défis qui sont apparus quand l'homme est tombé, quand il a péché, ça n'existait pas du tout. Cela nous dit à quoi ressemble la vie quand Dieu est complètement aux commandes. Or, Dieu a donné la terre aux hommes. Et quand Dieu donne, d'accord? Dieu ne le reprend pas. Ainsi, Dieu a donné la terre à l'homme, et Dieu a dit à l'homme qui avait le libre arbitre, Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Quand vous donnez à quelqu'un le libre arbitre, vous ne pouvez plus manipuler ce libre arbitre. Si vous êtes Dieu, vous ne pouvez pas simplement dire, je vais utiliser mon pouvoir pour changer son libre arbitre. Vous ne pouvez pas faire cela. Ce ne serait plus du libre arbitre. Mais à chaque fois que vous donnez le libre arbitre, il y a un risque que la personne choisisse la mauvaise chose maintenant. Bien que vous êtes libre de choisir, vous n'êtes pas libre de choisir le résultat. Vous choisissez ceci, voilà le résultat. Vous choisissez cela, c'en est un autre. Vous pouvez choisir, mais vous ne pouvez pas choisir le résultat. Comme j'aime dire, mettre le doigt dans le feu, c'est connaître la douleur. Vous ne pouvez pas choisir l'absence de douleur. La douleur suit le doigt dans le feu. D'accord? Donc, c'est la réalité. Ainsi, Dieu a dit à l'homme, « Ne pêche pas. Le jour où tu pêcheras, tu mourras. » C'est certain. Nous ne savons pas combien de temps Adam a vécu dans l'Éden, mais nous savons qu'en fin de compte, il a péché. Il a péché contre Dieu. Il a cru au diable, au mensonge de l'ennemi, plus qu'à la parole de Dieu qu'il aime. Et le résultat est que la maladie est arrivée, la décadence est arrivée, la vieillesse est arrivée, la décrépitude. Adam a finalement connu la décrépitude et la mort s'est installée. Donc Dieu a vraiment dit « ne pêche pas ». Le jour où tu pêcheras, tu mourras, c'est certain. Mais Adam a vécu plus de 900 ans avant de mourir. À cette époque, il vivait des centaines d'années. Et au fil du temps, cela s'est réduit à 100 ans, puis moins de 100 ans pour arriver aujourd'hui aux environs de 80. C'est une moyenne. Et je suis ici pour vous dire que ce n'était pas le plan de Dieu. En fait, la mort n'a jamais été dans le plan de Dieu. Mais Dieu a dit aux hommes, le jour où tu pêcheras, tu mourras. Mais comment se fait-il qu'Adam ait vécu plus de 900 ans? Est-il mort? Oui, il est mort. Il est mort spirituellement. N'oubliez pas, je suis un esprit. Donc, l'esprit est mort. C'est pourquoi Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Et alors Nicodème, à qui Jésus a dit cela, a dit, comment entrer dans le ventre de sa mère et naître? Il réfléchit physiquement. Jésus pense que votre esprit doit naître de nouveau. Ainsi, cette partie est coupée de Dieu. Cette partie est anéantie spirituellement, amen. Ainsi, cette partie est privée de Dieu. Ensuite, l'esprit a également commencé à s'effondrer. L'homme a commencé à être oublieux. L'homme n'avait plus le plein contrôle de sa pensée. Même la pensée la plus brillante. Les scientifiques nous disent que l'homme n'utilise que 10% de son intelligence. Donc au départ, l'homme avait le plein potentiel. L'homme n'a plus cette capacité. Puis son corps, il a commencé à avoir des boutons, des rides, des maladies, des affections, à vieillir et à mourir. Donc cela ne fait pas partie du plan de Dieu. La Bible, en fait, dit que la mort est un ennemi, afin que nous attendions l'enlèvement. Parce que l'enlèvement ne nous rachète pas spirituellement, mais nous rachète physiquement. Relevez la tête, car votre délivrance est proche. Amen. Peut-être cette année. J'ai dit peut-être cette année. Amen. J'ai hâte. La Bible dit, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Mais relevez la tête. Quand vous verrez toutes ces choses, relevez la tête. Votre rédemption corporelle approche. Amen. Nous ne vieillirons jamais, nous ne mourrons jamais, nous ne nous sentirons jamais malades, nous n'éprouverons plus la maladie, ni même l'ennui. Pour combien de temps? Pour toujours. Amen. Car Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. Cet ennemi que Dieu n'aime pas, que Dieu hait, la mort, a été vaincu par notre Seigneur Jésus-Christ en la croix. Il a laissé derrière lui un tombeau vide. Louez le nom de Jésus. Dieu nous a rachetés, esprit, âme et corps en la croix. Lorsque Jésus a été suspendu en la croix, Jésus nous a rachetés spirituellement. Il a porté nos péchés, amen, et nous revenons à la vie parce qu'il a pris notre place. Il ne connaissait aucun péché, il n'a commis aucun péché, il n'a jamais péché, il était sans péché. En lui, il n'y a pas de péché, mais nous qui avons péché, amen, il a pris notre place en la croix pour que nous puissions prendre sa place dans la justice. Et aujourd'hui, la Bible dit qu'une fois que vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés juste. Alléluia! Amen, les amis. La grâce signifie une faveur non acquise, non méritée. Savez-vous que lorsque vous naissez de nouveau, vous naissez juste? Vous êtes né juste. Aux yeux de Dieu, vous êtes juste. Cela ne signifie pas que votre corps doit être à la hauteur de qui vous êtes. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous croyez en Jésus-Christ et dites-vous bien qu'avoir le titre de chrétien ne signifie pas. C'est comme aller dans un garage ne fait pas de vous une voiture. D'accord? Ainsi, aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien. Vous devez naître de nouveau. Oui, vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour vous en la croix. Maintenant, une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes né juste. Votre corps peut encore faire le mal, votre pensée peut penser au mal, péché. Mais votre esprit, celui que Dieu voit, est juste. Amen. Donc, nous devons aligner notre pensée et notre corps sur notre esprit. Et nous apprenons à le faire chaque jour, afin que nous nous conformions à l'image de Jésus. Puis-je avoir un bon amen? Ensuite, la Bible dit que Christ nous a rachetés en la croix. Ésaïe 53 dit, verset 5, « Sûrement en la croix, non seulement il a porté nos péchés, il a aussi porté nos maladies et nos douleurs. » Bonne nouvelle, il a porté nos maladies et nos douleurs. J'ai dit qu'il portait nos maladies et nos douleurs. Amen, afin que nous soyons guéris. Vous voyez, nous avons seulement besoin de guérison de ce côté du ciel. Quand Jésus reviendra, nous n'aurons plus besoin de guérison. Pourquoi? Parce que nous aurons un nouveau corps qui ne tombe pas malade. Il n'y aura donc plus besoin de guérison. La guérison est seulement pour ce côté, ici et maintenant. Amen. Alors croyons en Dieu pour la guérison. Si vous êtes malade, allez à l'hôpital. Sachez ceci, Dieu vous veut du bien. Amen. Allez consulter un médecin, quel qu'il soit, mais surtout, comptez sur le Seigneur pour votre guérison. Amen. Si c'est un être cher, j'amènerai cette personne à l'hôpital. Je ferai en sorte que cette personne reçoive la meilleure aide médicale. Je ne crois pas un instant que Dieu veuille que vous soyez malade. S'il voulait que l'homme soit malade pour montrer cette volonté, il aurait rendu Adam malade dès le début, avant le péché. Alors non, amen. Dieu et les docteurs sont tous du bon côté, du côté de la guérison. Amen. La Bible dit, Dieu a voulu que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Ainsi, Christ nous a aussi rachetés physiquement, et cette plénitude arrivera quand Jésus reviendra. Nous aurons un tout nouveau corps. Mais qu'en est-il de notre âme intermédiaire, ou de notre pensée, de nos émotions? Ainsi, l'une des choses qui se sont produites est que pendant que je me préparais pour ce message du Nouvel An, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il a sur son cœur pour vous. Je veux guérir leurs pensées. Beaucoup d'entre nous, nous sommes sauvés spirituellement. Je vais prier pour cela également. À la fin du service. Mais dans notre pensée, il y a quelque chose que le Seigneur, cela m'a surpris quand il a dit « Je veux guérir leurs pensées ». Parce qu'au début, quand j'ai créé l'homme, sa pensée n'était pas oublieuse. Mais c'est alors qu'il m'a montré que beaucoup d'entre nous, nous avons considéré notre oubli comme normal. On entend des reportages, on regarde autour de nous d'autres personnes et ils rient. Et les gens font des blagues à ce sujet, vous savez, les gens plaisantent. Comment cet homme qui a monté les escaliers... Et il s'est tourné vers sa femme âgée, et il a levé les yeux, puis il a encore baissé les yeux, il a levé les yeux, puis il a dit, « Maintenant, je ne sais pas si je descends ou si je monte. » Et les gens plaisantent à ce sujet. Et nous avons des moments où nous entrons dans une pièce, et nous nous demandons, « Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi suis-je venu ici? Ne levez pas les mains. » Nous appelons cela un moment de vieillesse, n'est-ce pas? Mais nous l'acceptons comme étant normal. Les gens en font même des blagues, mais ce que le Seigneur m'a dit, c'est que c'est une malédiction. C'est une malédiction qui est venue à cause de la chute d'Adam. Et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en la croix. Amen. Si vous regardez Adam avant qu'il ne pêche, si vous regardez Adam, quand Dieu a créé Adam, Dieu a fait tous les animaux, Dieu a fait Adam éternel, et Dieu a fait tous les animaux et tout le reste afin que l'homme puisse jouir de tout ce qu'il a fait. Dieu ne l'a pas fait le premier, ou le deuxième jour, ou le troisième jour, pour que l'homme ne puisse pas glorifier ou prendre part à ce que Dieu a fait. Toute la gloire revient à Dieu. L'homme est le récipiendaire de son amour, le bénéficiaire de toutes ses bénédictions. C'est la vie que nous devons vivre. Le salut commence quand vous recevez, pas quand vous faites. Ce n'est pas votre action qui vous sauve, c'est recevoir l'œuvre achevée de Jésus. Dans l'Ancien Testament, l'ancien accord était que vous fassiez encore et encore, mais personne ne peut atteindre le niveau de ce que Dieu exige. Dieu le savait, alors que l'homme ne pouvait pas savoir. Dieu a envoyé son Fils, il est mort pour nous. Et maintenant, le salut commence par « c'est accompli ». Amen. Nous nous reposons dans le travail fini. Puis-je avoir un bon amen? Ainsi, en la croix, Christ nous a rachetés de la mort spirituelle. Christ nous a rachetés de la maladie et de l'affection. C'est notre corps. et vous trouvez toutes ces malédictions listées dans Deutéronome 28. Alors Christ nous a rachetés dans nos âmes. Et c'est notre pensée qui devient déprimée. C'est la pensée qui oublie. C'est la pensée. Alors, est-ce que Dieu ne fait que contourner votre pensée? Dieu contourne-t-il votre pensée pour atteindre votre esprit, pour atteindre votre corps, ignorant la pensée? Non, Dieu a fait l'homme en trois parties. Vous voyez, Dieu est un Dieu, mais Dieu est la Triunité, n'est-ce pas? Trois personnes divines, Père, Fils, Saint-Esprit, trois en un. Vous ne dites pas trois dieux, vous dites un seul Dieu. Amen. Même la langue hébraïque dit « l'Éternel, notre Dieu » et « le seul Éternel » en hébreu, « l'Éternel, notre Dieu, Elohim ». L'Éternel, notre Elohim. Elohim est pluriel, mais un seul Dieu est Echad. Echad n'est pas une unité singulière. Echad est une unité collective. Nous sommes tous ici comme un tout. Cela signifie que c'est un mot pluriel. Echad est un. Le Seigneur, notre Dieu, est un. Ce n'est pas grave. Si vous ne comprenez pas l'hébreu et tout ça, ça va. Amen. Mais souvenez-vous, quand Dieu dit « faisons l'homme », ces mots que vous trouverez dans votre Bible, second 21, « faisons l'homme ». Faisons l'homme. Ainsi, la personne divine est impliquée. Le Père a planifié. Le Fils exécute. Le Saint-Esprit vient et se manifeste. Amen. Ainsi, la Triunité. Trois personnes divines en un seul Dieu. Amen. Notre Dieu unique. Nous ne disons pas trois dieux, d'accord? Souvenez-vous toujours de cela. C'est un mystère divin. Ainsi, Dieu a créé l'homme à son image. Nous sommes tripartites. Amen. Si une partie souffre, nous souffrons. Si votre pensée est agitée, le corps dit, d'accord, produisez la maladie. Produisez la maladie. Et les médecins diront, par exemple, que le stress peut rendre votre corps malade. N'est-ce pas? Votre esprit n'est pas au repos. Cela peut affecter votre pensée. Votre pensée peut affecter votre corps. Vous ne pouvez pas tout dissocier. Il y a cette partie, puis celle-là. Tout est lié. Tout est symbiotique. D'accord? Et quand Dieu vous a créé à son image, vous êtes tripartite. Amen. Souriez à votre voisin et dites-lui, tripartite. Dites, je suis déjà devenu intelligent dès le premier jour de 2023. Bon, alors regardez ça. Le Seigneur m'a dit qu'il veut guérir votre pensée. Tout d'abord, vous devez reconnaître que ce n'est pas normal. Si vous continuez à entendre, à regarder les nouvelles, si vous continuez à entendre les nouvelles, si vous continuez à regarder le rapport de l'homme, vous accepterez cette condition. Mais ne dites pas des choses comme « je vieillis, je suis oublieux ». L'autre jour, je me suis réveillé tôt, et vous savez que quand vous venez de vous réveiller, votre pensée va généralement dans toutes sortes de directions différentes, n'est-ce pas? Donc ma pensée est allée vers un vieil ami, une personne âgée m'est venue à l'esprit, quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Et je me suis dit, comment s'appelle-t-il? Je connais son nom. Mais ça ne m'est tout simplement pas revenu. Alors je me suis dit, je ne me rendormirai pas tant que je ne connaîtrai pas son nom. Vous avez déjà connu ça? Ça vous est déjà arrivé? Je l'avais au bout de la langue. Mais je n'arrivais pas à retrouver son nom. Alors j'ai lutté et lutté, et le nom n'est jamais venu. Mais je n'ai pas accepté que je vieillissais. Et là, j'ai dit, j'ai la pensée de Christ. Et cette phrase, soit dit en passant, se trouve dans le Nouveau Testament. J'ai la pensée de Christ. Paul dit, nous avons la pensée de Christ. J'ai la pensée du Christ et je connais son nom. Et comme ça, son nom est apparu. Amen. Bon, écoutez, ça n'arrive pas toujours aussi vite. Mais apprenez à, au lieu de dire, je suis oublieux, prononcez la parole de Dieu. J'ai la pensée de Christ. Amen. Et la pensée de Christ n'oublie jamais. Amen. Cela ne viendra peut-être pas immédiatement, mais cela viendra, cela se manifestera. Plus vous le dites, plus vous... En fait, ce n'est pas vraiment vous, c'est juste que vous libérez la foi. C'est la parole de Dieu. Mais nous nous approprions les promesses de Dieu par la foi. Et la foi est ainsi libérée. Croyez en votre cœur, avec votre bouche. Croyez en votre cœur, parlez avec votre bouche. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Au commencement, dit la Bible, Dieu créa les cieux et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit, « Lumière !» Remarquez, Dieu a d'abord vu les ténèbres, mais Dieu n'a pas dit, « Wow ! C'est sombre !» Ça deviendrait plus sombre. Remarquez, Dieu a vu les ténèbres, et qu'a dit Dieu? Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Maintenant, écoutez. Nous sommes faits à l'image de Dieu, d'accord? Nous sommes censés aller par la foi, mais à cause de la chute de l'homme, ils choisirent d'aller par la vue. Ils veulent aller. En fait, beaucoup de choses qui sont réelles, vous ne pouvez pas les voir dans le domaine spirituel. Alors que maintenant, nous pensons que le domaine physique, où nous pouvons voir qu'il vieillit, qu'il se décrépit, qu'il se décompose, qu'il y a une date de péremption. Mais ce qui est de l'esprit ne vieillit jamais, ne meurt jamais. C'est pourquoi la partie de l'homme qui est l'esprit doit finalement être logée au paradis ou en enfer après que le corps se soit décomposé. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Remerciez Dieu pour cela. Louez le Seigneur. Ainsi nous sommes rachetés même dans notre pensée. Alors commencez à confesser, j'ai la pensée de Christ. Amen. Amen. Le diable vient voler, tuer et détruire. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 10:10. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Qu'ils aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Oh, ça sonne si bien dans ma bouche. La vie en abondance. Dites-le. La vie en abondance. Jésus dit, « Je viens. » Pourquoi viens-tu, Seigneur Jésus? Message de Noël, n'est-ce pas? Il est venu. Pourquoi viens-tu? Je viens pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Amen. Cela ne veut pas dire que les gens qui ont beaucoup d'argent ont une vie abondante. Beaucoup d'entre eux pleurent à l'intérieur. Beaucoup d'entre eux sont pleins de peur et d'inquiétude. Ce n'est pas une vie abondante. Mais remarquez qu'il y a un voleur. Le voleur dont parle Jésus ne vient que pour voler, égorger et détruire. Remarquez qu'avant qu'il ne puisse tuer et détruire, tout ce qui vous vole n'est pas Dieu. Vous volez, c'est le diable. Oui, il y a un diable. Il y a un diable, je l'affirme. Ok, aujourd'hui, nous avons des mots fantaisistes pour le diable. Les gens ne parlent plus du diable. C'est en fait la victoire du diable, dans un sens, de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Je me souviens avoir prié pour une dame qui était possédée par un démon. C'était une dame, mais une voix d'homme s'est fait entendre. Au début, je lui parlais, elle me parlait d'une voix féminine, mais quand j'utilisais le nom de Jésus, une voix d'homme est sortie de sa gorge. Ainsi, après un certain temps, le pasteur Henri était là, et j'étais à côté en train de prier. Immédiatement, quand j'ai entendu la voix d'un homme, j'ai couru à côté et j'ai dit au pasteur Henri, « Tu t'en occupes, j'ai besoin de prier. » Dans ma jeunesse, j'ai regardé un film intitulé « L'exorciste » et je n'ai jamais changé. Je ne voulais pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. Ce que je ne savais pas, c'est que ce film ne montrait pas qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou. Amen. Quand Jésus était sur terre, même les démons le suppliaient de ne pas les chasser. Ils l'ont supplié de ne pas les envoyer en enfer avant l'heure. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé? Ils savent que le temps viendra où ils iront en enfer. Ils le savent, mais ils sont toujours sur terre, sous forme d'esprit désincarné. C'est un tout autre message. Et ils causent la dépression, ils causent l'oppression, ils causent la maladie. Et vous savez, les Chinois ont un dicton, ils disent « Oh, cette douleur vient sur le corps par le vent », ce qu'ils appellent « hong ». C'est très intéressant qu'en grec, le Nouveau Testament est écrit en grec. Alors que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. En hébreu, c'est « ruach », le vent. En grec, c'est « pneuma », perceuse pneumatique, comme actionnée par le vent. Vent est le mot pour esprit. D'accord ?« Pneuma » ou « ruach » en hébreu. « Ruach », esprit. Alors, un esprit mauvais, un souffle mauvais, c'est comme un vent. Le Saint-Esprit est aussi comme un vent, et bien des fois vous le sentirez, même dans notre église. Vous pouvez sentir le vent, le sentir pendant le temps de la guérison. Le vent vient et la douleur s'en va. Amen. La tumeur n'est plus. Amen. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par l'Esprit du Seigneur. Cela peut arriver même pendant cette période où je prêche, louez le Seigneur. Car Dieu aime guérir. Dieu aime vous restaurer. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus était sur terre, la Bible parle de comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Amen. Ainsi, la maladie n'est pas de Dieu, elle est du diable. Jésus allait en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Amen. Alors le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Mais avant qu'il ne puisse tuer et avant de pouvoir détruire, que fait-il? Il vole. Que volent-ils? Que pensez-vous que le diable veut voler? Maintenant, imaginez que vous êtes un voleur, d'accord? Vous ne pouvez pas imaginer que vous êtes un voleur, d'accord? Quand un voleur s'introduit dans une maison, quelle est la chose qu'il recherche? Je sais que de nos jours, vous avez des voleurs professionnels, des voleurs numériques. Et quand ils volent, ils peuvent détourner des millions et des millions de dollars d'une île. Et après, les gens sont incapables de savoir où est cet argent, n'est-ce pas? Donc, je parle bien sûr d'un voleur. Tous les voleurs, que cherchent-ils à faire? Voler. Voler. Alors, imaginez un voleur qui vient dans une maison. Qu'est-ce qu'il fait? Hé, il y a deux voleurs, d'accord? Regarde ça! Des piles et des piles de papier toilette! Tu t'en souviens? On se battait tous au supermarché pour du papier toilette. Peut-être qu'avec l'arrivée d'un autre variant, il nous faudra encore rester à la maison. On prend les rouleaux de papier toilette. Attrape ça! Les voleurs s'en vont chargés de papier toilette. Vous pensez qu'ils s'intéressent au papier toilette? Non, ils s'intéressent aux petits objets. Le rouleau de papier toilette est trop grand. Quels sont les petits objets? Les diamants, les bijoux. Et de nos jours, ils sont assez sophistiqués, vous savez. Non, ça c'est du zircon. Ce n'est pas un vrai diamant. Ce n'est pas un diamant. Oh, ce sac, ce n'est qu'une imitation. Celui-ci est un vrai. Ils cherchent des objets de valeur. Que pensez-vous que le diable veut vous voler? Eh bien, Jésus a répondu à cela. Regardez ceci dans Matthieu 13. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur, lorsqu'un homme entend la parole du royaume. Avant que le diable puisse tuer et détruire, il doit voler, il doit voler, il doit vous voler la parole. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume, Jésus parle ici, et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Très bien. Alors, Jésus partage la parabole du semeur et de la semence sur les différents types de réponses à la parole de Dieu. Comme en ce moment. Même en ce moment, je parle peut-être à quatre types de sols différents. Il y a quatre réponses différentes à la parole de Dieu. Mais Jésus a dit que le diable vient voler. Et c'est ça qui arrive. Ils entendent la parole, mais ne la comprennent pas. Quand vous ne comprenez pas la parole, en fait, vous l'entendez. Ce n'est pas que vous ne l'entendez pas. Ce n'est pas que vous ne venez pas à l'église. Vous allez à l'église le dimanche, le 1er janvier. Amen. À Pâques. Le Nouvel An chinois, peut-être. Et le jour de votre anniversaire. Ce n'est pas qu'ils ne viennent pas à l'église. Ils viennent pour entendre la parole. Amen. Et vous savez quoi? À chaque fois que vous allez à l'église, je suis content. Amen. Vous êtes dans un endroit où vous pouvez entendre la parole. C'est déjà la moitié du miracle. Le diable ne veut pas que vous soyez à l'église du tout. Il essaiera de faire de l'église un endroit où les gens semblent ennuyeux. D'accord? Vous avez vu le pasteur Marc? Il n'y a aucune chance qu'il soit ennuyeux. Amen. Les gens là-bas, ils sont du genre à dire « Fais pas ci, fais pas ça !» Des mensonges qu'on entend souvent. Je vous le dis, la Bible est bien plus avancée que vous ne le pensez. Bien plus que tout ce que vous pouvez concevoir. Amen. Le diable veut que vous soyez à l'extérieur. Car tant que vous regardez Netflix et toutes ces autres choses comme le sport et ainsi de suite, il sait que ces choses ne peuvent pas vous sauver de ces attaques et de ces assauts contre vous en 2023. Il le sait. Il sait ce qu'il pourra tirer du fait que vous suiviez telle série télé, telle star, telle équipe de football. C'est ce qu'il y a de mieux au monde, qu'importe le domaine, que ce soit dans le divertissement, le golf, le sport, le football, quoi que ce soit, il le sait. Et cela signifie-t-il que nous ne devons pas apprécier ces choses? Nous apprécions ces choses, mais elles ne doivent pas passer avant la parole. Amen. Quoi que vous fassiez, accrochez-vous à la parole de Dieu. C'est ce qui produit les bénédictions, et les miracles, et les percées, et les guérisons dont vous et moi avons besoin. Vous seriez étonné de voir à quel point la parole de Dieu a été dérobée de votre pensée. Peut-être êtes-vous devenu croyant quand vous étiez enfant, mais là, cela vous a été volé. Ce n'est pas normal. Le diable vous a volé. Avant qu'il puisse toucher votre corps, il doit enlever la parole de guérison de votre tête. Il sait que aussi longtemps que la parole est là, même une petite semence, c'est comme ce petit arbre qui pousse à travers un trottoir. Vous avez déjà vu ça? Il finit par casser le béton. Il casse le trottoir et fonce vers le ciel. Une petite graine a ce pouvoir. Quelqu'un laissait tomber la graine, peut-être qu'il mangeait un fruit et qu'il l'a recraché. Elle est allée se loger dans une fissure. Elle a commencé à germer. Elle a commencé à pousser suffisamment pour casser le béton. Une petite graine. Le diable doit faire vite avant qu'elle ne germe. Le diable doit venir vite avant qu'elle ne bourgeonne. Il doit venir vite avant qu'elle ne perce le béton. Mon conseil, ne venez pas seulement pour la germination en début d'année. Soyez ici jusqu'à la fin de l'année. Amen. Continuez à entendre la parole. La parole, vous voyez, nous ne sommes pas ici pour être religieux, nous sommes ici pour être spirituels. D'accord ? Nous ne sommes pas ici pour apprendre des lois. Nous sommes ici pour venir sous la grâce, où nous le voyons, et nous lui permettons de nous aimer et de faire de grandes choses pour nous. Amen. Et c'est une grande humilité de permettre à Dieu de subvenir à vos besoins et ne pas dire « Non, 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 je peux le faire moi-même. Je peux le faire, je peux m'aider moi-même, je peux me soigner, je peux me parrainer, je peux subvenir à mes besoins, je peux surmonter cette servitude par moi-même comme les gens qui fument. Je peux arrêter quand je veux, oui. » Et on ne les voit jamais s'arrêter. Pas vrai. Nous sommes si fiers de penser que nous pouvons alors que Dieu essaie de nous faire comprendre cette leçon. Tu ne peux pas, tu as besoin de moi. Cette année, dépendez plus que jamais de Dieu. Personne n'est aussi fort que celui qui place sa confiance dans le Seigneur. Ce sont les gens faibles qui essaient de ne dépendre que d'eux-mêmes. Amen. Alors, le diable vient voler la parole. Mais pourquoi ? Pourquoi est-il capable de voler la parole ? Parce que celui qui entend la parole ne la comprend pas.
Eh bien, votre Nouveau Testament est en grec.
D'accord ? Toutes les versions françaises viennent du grec. Il a été écrit à l'origine en grec. Votre Ancien Testament, comme les histoires de David et tout cela, c'est en hébreu. L'Ancien Testament est en hébreu. Le Nouveau Testament, en quoi ? En grec. D'accord ? Vous avez compris ? C'est le Nouveau Testament. Jésus parle. Et c'est en grec. Et en grec, je veux que vous vous souveniez de ce mot. En grec, le mot « comprendre » est le mot « tsunami ». Dites « tsunami ». Ça ressemble à un tsunami. D'accord ? Vous pouvez vous en souvenir. « Tsunami ». Maintenant, « tsunami » signifie « sun » signifie « ensemble ».« Naimi » signifie « sagesse qui vient de Dieu ». Que les autres peuvent voir, mais qu'ils ne voient pas. Mais vous le regardez. Vous voyez ce qu'ils ne voient pas. Vous mettez les deux ensemble. Soon signifie ensemble. Vous êtes capable de mettre les deux ensemble et de voir ce que Dieu veut que vous voyiez. Cela vient de Dieu. Vous entendez la parole et vous la méditez jusqu'à ce que vous voyez le Tsunami en 2023. Et alors vous avez la victoire. Amen. C'est Tsunami. Tsunami, c'est mettre les deux ensemble. C'est très intéressant. Maintenant, regardez les quatre sols. Jésus a mentionné quatre sols, n'est-ce pas ? J'enseignerai cela une prochaine fois. Mais regardez, la bonne terre qui produit une récolte qui rapporte 30, 60, 100 fois. Regardez ce bon sol. Descendons. Jésus dit, celui qui a reçu la semence, la parole de Dieu dans la bonne terre, dans sa hutte, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Encore une fois, il y a le mot Tsunami. Il porte du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour 1. Vous voyez ça ? Amen. Donc, nous voulons comprendre la parole de Dieu. Faites de cette année une année où vous comprenez la parole de Dieu. Lire un roman, lire un livre, lire un journal, tout ça, c'est très bien. Fantaisiste, agréable. Et cela vous fait vous sentir bien pendant un certain temps. Rien de mal à cela. Cela peut aussi vous déstresser dans une certaine mesure. Mais ça ne peut pas vous aider comme la parole de Dieu peut vous aider. Parce que la parole de Dieu contient la véritable substance de Dieu. Amen. Alors, dans le même chapitre, notez ce que Jésus a dit à propos des gens qui refusent d'entendre la parole de Dieu ou de voir la parole de Dieu. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux. Remarquez que Dieu n'a pas fermé leurs yeux. Ils ont fermé les yeux. Ainsi, la parole de Dieu vient aujourd'hui encore par la porte de vos oreilles. Amen. Pour certains d'entre vous, cela passe également par la porte des yeux. Certains ont les yeux fermés. Parce qu'il médite la parole de Dieu au moment même où je parle. Vous avez médité depuis un certain temps. Et vous voyez qu'une autre porte s'ouvre. Pendant que vous méditez, les yeux fermés. Vous voyez tous ceux qui sont au premier rang, à droite, mes pasteurs. En particulier le pasteur Lorenz, je l'ai déjà vu. Il est si poli qu'il ne bâillera jamais quand je prêcherai. Oui, il bâille, mais il ne bâille pas ouvertement comme le pasteur Marc. Quand le pasteur Lorenz bâille, il me regarde et tout d'un coup, ses yeux deviennent vraiment grands. Puis ses narines se dilatent. Une fois, je l'ai regardé, j'ai dit, « Mon frère, tu viens de bâiller. » Ses yeux ont commencé à s'humidifier. Il est trop poli pour bâiller ouvertement. Amen. Mais il y a des gens qui bâillent sans aucune gêne, à l'aise, ses journées portes ouvertes. Ainsi, la parole de Dieu entre par la porte de votre œil. Voyez la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu. Et remarquez qu'ils ferment délibérément les yeux, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. De peur que les oreilles n'entendent le mot comprendre, devinez quoi? C'est le mot Sunaimi. De peur que leurs oreilles n'entendent. Vous voyez, plus vous entendez la parole de Dieu, plus vous voyez la parole de Dieu. Elle tombera dans votre cœur. C'est alors que Dieu vous donne la compréhension. Vous dites, je le vois. Je veux que vous soyez tous, cette année 2023, accros aux révélations. Vous voulez la révélation de la parole de Dieu. Je le vois. C'est David qui le dit, que c'est plus désirable que l'or, que l'or fin. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, dit la Bible. Amen. Heureux est l'homme qui a trouvé la sagesse. Regardez ce que Jésus a dit qu'il arriverait. Si vous comprenez vraiment Sunaimi, la parole de Dieu, et Sunaimi vient de Dieu, et nous allons demander à Dieu de vous la donner cette année. Si vous comprenez vraiment la parole de Dieu, elle dit « de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse ». Regardez la façon dont il a dit « que je ne les guérisse ». C'est presque comme si il y avait une nécessité divine. Si tu remplis les conditions, si tu vois ma parole, si tu entends ma parole, qu'elle touche ton cœur et que tu la comprends, je devrais te guérir. Je ne peux que te guérir. Intéressant. Mais les amis, on dirait que les gens ne veulent pas d'une guérison pareille. Pasteur, priez pour moi. Voici ma tête, voici ma main, touchez-la. Ça ne marche pas toujours comme ça. Je ne suis pas celui qui guérit. Je vous l'ai déjà dit. J'obéis simplement à Dieu et Dieu a dit, ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Parfois, Dieu permet ce moyen, mais parfois, Dieu veut que nous recevions la guérison de sa parole. Amen. Par la révélation. Donc, s'ils comprennent, je devrais les guérir. N'est-il pas intéressant de voir dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes écrit par l'homme le plus sage, le roi Salomon, à qui Dieu a donné la sagesse, des propos semblables. Regardez ce qu'il dit. « Mon fils, Dieu vous parle. Sois attentif à la chaîne de football. » Ok, mauvaise plaisanterie, Pasteur Prince. D'accord, j'aime le football. D'accord, j'aime beaucoup ça. J'aime le foot. J'ai même regardé Singapour jouer contre le Vietnam il y a à peine 2 jours. Pourquoi le Singapour ne gagne pas? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je regarde le foot. J'aime bien ça. Amen. D'ailleurs, même mon fils a chanté la chanson de la Coupe du Monde la semaine dernière, lors du deuxième service, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu, nous aimons le football. Nous sommes une famille qui aime le foot. Même ma femme aime le football. Elle a dit que quand elle entend le football, elle peut dormir. Le bruit de la foule, ce bruit-là, elle a grandi en écoutant le football. Alors, ne me méprenez pas. Mais n'en faites pas une idole. Ne lui donnez pas la priorité. N'y prêtez pas attention au point de négliger la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas venir à l'église parce que hier soirée football. Vous savez, faites attention à quoi? À mes paroles. C'est la priorité. Ensuite, il dit ceci. Tends l'oreille, la porte de vos oreilles, vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas. De quoi? De tes yeux. Alors que se passe-t-il? Garde-les au fond de ton cœur. Vous voyez les propos semblables, non? C'est par la porte de vos yeux, c'est par la porte de vos oreilles. Voyez la parole de Dieu. Comment voyez-vous la parole de Dieu? Ça ne veut pas dire que vous prenez la Bible et que vous traversez la rue des orchidées en vous cognant contre tout le monde, contre les lampadaires. Bien sûr que non. Ça signifie quoi? Dans votre esprit, vous visualisez, vous imaginez que quand la parole de Dieu dit que vous êtes un arbre planté au bord des fleuves d'eau, vous vous voyez comme ça. Quoi qu'il fasse, cela prospère. Vous vous voyez comme ça. Quand le monde dit que vous vieillissez, vous vous voyez vert. La Bible dit qu'il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Vous voyez la parole de Dieu. Vous voyez la parole de Dieu. Vous croyez en la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle tombe dans votre cœur. Vous voyez? Gardez cela à l'esprit. Elle tombera dans votre cœur. Car il, les mots de Dieu, apportent quoi? La vie à ceux qui les trouvent. Pas pour tout le monde. À ceux qui les trouvent. Ceux qui reçoivent par la porte de l'œil, la porte de l'oreille, tombant jusqu'au cœur. Ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. La parole de Dieu est la santé. Vous aimez les tomates? La parole de Dieu donne la santé de la tête jusqu'aux pieds. Oh, pasteur, c'est horrible. Votre blague, je veux dire. Ainsi, à tout leur corps signifie toute votre chair. Depuis votre cerveau, vos cheveux, votre tête, vos yeux, votre cœur, votre pancréas, je pense que c'est quelque part ici, votre foie, votre estomac, vos intestins, votre prostate, je vais arrêter de pointer du doigt. Très bien. Et tout en bas, vos genoux, amen, vos épaules, vos genoux, tête, épaules, genoux et pieds, tête, épaules, genoux et pieds, à tout leur corps. Ça veut dire tout. Ce n'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu le dit. Il n'y a pas de médicament, il n'y a aucun médicament qui guérit tout le corps. Il y en a beaucoup qui promettent beaucoup de choses. Puis on entend des effets secondaires. En Amérique, quand je suis au volant, j'entends une publicité. Essayez tel produit, c'est magnifique. Puis la mise en garde. Attention, ce médicament peut causer toutes sortes de problèmes majeurs, incluant la mort. Très vite. Mais au moins techniquement, ils l'ont dit. Vous, vous ne pouvez pas l'entendre, c'est votre problème. Il y a beaucoup de contre-indications qui existent quand vous mélangez certaines choses, par exemple la parole de Dieu, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps continue à recevoir la parole de Dieu. Vous pouvez regarder Netflix, mais rappelez-vous que le mot « net » filé en anglais est là. Ne vous laissez pas prendre dans le filet, c'est tout. Amen. C'est bon, je comprends. Ne laissez pas les valeurs du monde devenir vos valeurs. Si vous êtes déprimé et que vous pensez que c'est normal, n'adhérez pas à ceux qui disent que c'est bien de ne pas aller bien. Si vous êtes déprimé, ont-ils le droit de dire ça? Hein? Ils ne sont pas déprimés. Mais je vous le dis, Dieu veut que vous soyez libéré de la dépression. Il existe un endroit où vous pouvez avoir la paix dans votre esprit et la tranquillité dans votre cœur. Dieu vous aime. Il veut que vous ayez cela. Certains disent que c'est facile à vivre. Ça va, accepte ta condition, ne cherche pas de soulagement, ne cherche pas, non, non. Les gens en dépression, il ne faut jamais les condamner. Jamais. Il n'y a aucun mal à être déprimé. Mais penser que c'est un état normal et toujours vivre ainsi, il y a des gens qui vous disent « ça va ». Non, non, c'est facile à dire. Dieu veut le meilleur pour cette personne. Dieu veut que cette personne soit libérée. Puis-je avoir un bon amen? Ainsi, dans la maison de Dieu, vous entendez la parole de Dieu. Vous voyez la parole de Dieu. Oui, à la maison aussi, vous le pouvez, mais il y a tellement de distractions. Alors, assurez-vous d'avoir au moins le dimanche. Commencez bien l'année, mes amis. Amen. Donc ici, il est dit, ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Dieu veut que vous ayez la sagesse, que vous l'ayez dès le début de l'année. Peut-être que cela peut aussi être l'une de vos trois demandes pour lesquelles nous prierons à la fin du service, d'accord? Vous êtes tous venus avec vos trois demandes? Très bien. Ainsi, la Bible dit que la principale chose, c'est la sagesse. Et là, vous vous dites, eh bien, Pasteur Prince, je voudrais que vous sachiez que j'ai quand même un QI, un quotient intellectuel assez élevé. Ce n'est pas pour me vanter, mais il est très élevé. Hein? Du genre vraiment très élevé. Eh bien, la sagesse n'a rien à voir avec le QI, absolument rien à voir. Amen. J'ai vu des médecins fumer. Dans ce cas, il a la pensée, il a la connaissance, il a l'instruction. Or, il n'a pas de sagesse. Il y a des gens qui ont gâché leur mariage, et ce sont des professeurs. D'accord? Il y a des scientifiques qui n'ont pas de bonnes relations avec leurs enfants. Ils gâchent tout à chaque fois que leurs enfants sont avec eux. Ils s'expriment mal et il n'y a pas de sagesse. La sagesse vient du Seigneur. Et que s'est-il passé quand l'homme a trouvé la sagesse de Dieu? Voici ce qui se passe. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède la pensée. Le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Vous savez, je vous le garantis, la bourse, les marchés de la crypto, ce marché-ci, ce marché-là, quel qu'il soit, la Bible rapporte plus quand vous recevez la sagesse. Et c'est la parole de Dieu. Elle est plus précieuse que les perles. Maintenant, voyez-vous, la sagesse est personnifiée par une femme. Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie, c'est la première chose qu'elle vous donne. Une longue vie est dans sa main droite. Combien sont d'accord que la main droite est la main de priorité? Vous êtes d'accord avec ça? Que votre main droite est la main de priorité, n'est-ce pas? Ainsi, la priorité numéro un pour Dieu n'est pas la richesse, ce n'est pas la renommée, ce n'est pas l'honneur. C'est quoi? La santé. Amen. À quoi ça sert d'être l'homme le plus riche du monde si vous êtes en train de mourir? Pas vrai? Donc, la santé est primordiale et elle est dans notre main droite. Remarquez qu'une longue vie, la longévité, est dans la main droite, d'accord? Dans sa gauche se trouvent la richesse et la gloire. Ainsi, la deuxième bénédiction, c'est la richesse. Et la troisième, l'honneur qui se trouve dans sa main gauche. Ses voix sont des voix agréables. Il y a de la douceur. Ça ne veut pas dire que les choses seront parfaites. Il y aura beaucoup de choses qui iront mal. Il y aura beaucoup d'adversités et de défis auxquels nous serons confrontés cette année. Mais il est peu probable même, difficile que nous demeurions dans la tristesse et l'adversité parce que comme une bouée dans l'eau, il y a une joie et une paix, une douceur qui vous élève. C'est ce que Jésus vous donne au milieu de l'adversité en l'an 2023. Amen. Vous serez soutenu. Amen. Vous serez élevé au-dessus de vos peines par la joie du Seigneur. Être content dépend de la façon dont un événement se produit. S'il se produit comme vous vouliez qu'il se produise, alors vous êtes content, heureux, content. Tant que les événements sont heureux, on est content. Mais la joie, ce n'est pas être content grâce à des événements heureux. Paul était en prison, enchaîné, et il chantait. Amen. Voilà la joie du Seigneur. Louez le Seigneur. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alors, regardez ça. Une longue vie, c'est la santé, la richesse. Ça fait 2. 3. La gloire. 4. C'est les voies agréables. Tous ces sentiers sont shalom en hébreu, la paix. Tous ces chemins sont paisibles. Et la paix, c'est aussi le bien-être, la plénitude. Amen. C'est comme la complétude. Amen. Encore une fois, que vous donne la sagesse? Longue vie, santé, longue vie, richesse, gloire, voies agréables, paix. Ainsi, elle est personnifiée en femme. Vous l'enlacez, ses deux mains vous soutiennent. Optez pour la sagesse. Optez pour la sagesse. Demandez à Dieu la sagesse, comme l'a fait Salomon. Quand son père, David, celui qui a tué Goliath, qui est devenu roi plus tard, mourut, Salomon, son fils, est monté sur le trône et il a parlé à Dieu. Une nuit, durant un songe, il se trouvait dans un endroit appelé Gabaon, là où était le tabernacle de Moïse. En songe, cette nuit-là, le Seigneur lui est apparu. Et Dieu a dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Il dit, « Mon Dieu, je ne demande pas grand-chose. Je ne demande que 4 chiffres. Fais-les sortir cette semaine. Juste 4 numéros, rien de plus. » D'accord? Je l'ai déjà dit. Si vous demandez des chiffres, qu'est-ce que vous recherchez en vérité? De l'argent? Pourquoi voulez-vous de l'argent? Oh, l'argent me donnera plus de vacances. Je pourrais arrêter de travailler. Pourquoi voulez-vous tout cela? Pour que je puisse me reposer, pour que je puisse voyager, pour que je puisse avoir une qualité de vie. Pour que je puisse avoir la paix dans mes dernières années. Et si Dieu dit, je peux t'aider à contourner la case départ. De là, je vous emmène directement à une longue vie, à la santé, à la richesse, à la gloire et à la paix. Que diriez-vous de cela? Alors, quoi qu'il en soit, revenons à Salomon. Il n'a pas demandé les numéros du loto. Il a demandé cela à Dieu. Il dit, « Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Or, ce discours plut au Seigneur en ce que Salomon lui avait fait cette demande. Ainsi, Dieu était très content. Si vous demandez à Dieu la sagesse aujourd'hui, vous plairez au même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il a demandé à Dieu la sagesse. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Et Dieu lui dit, « Puisque tu m'as fait cette demande et que tu n'as demandé ni une longue vie ni des richesses, en fait, la sagesse apporte toutes ces choses, n'est-ce pas? Mais il n'a pas demandé toutes ces choses, ni la mort de tes ennemis. » Mais que tu as demandé de l'intelligence pour rendre la justice. Voici, je fais selon ta parole. Je te donne un cœur sage et intelligent, de sorte qu'avant toi, nul n'aura été pareil à toi, et qu'il n'y aura point après toi qui te soit semblable. D'accord? Et même, je te donne ce que tu n'as pas demandé. Regardez ceci. Je te donne ce que tu n'as pas demandé. Il a demandé à Dieu la sagesse. Dieu lui a donné quoi? Je te donne ce que tu n'as pas demandé. Et les richesses et la gloire. Qu'est-ce que c'est? La main gauche, non? Vous demandez à Dieu la sagesse, vous obtenez tout. Mais pour Salomon, il a demandé à Dieu la sagesse. Dieu dit, « Je te donne ce que tu n'as pas demandé, et les richesses et la gloire. » C'est la main gauche. Mais qu'en est-il de la main droite? La santé, une longue vie. Dieu dit, « Et si tu marches dans mes voies, gardant mes statuts et mes ordonnances, Soit dit en passant, les richesses et la gloire, il n'y en aura point de semblable pendant tous les jours de ta vie. Jusqu'à aujourd'hui, il est l'homme le plus riche qui n'ait jamais vécu. Oui, il est plus riche qu'Elon Musk. D'accord? Compte tenu de l'inflation et de tout cela, vous constaterez qu'il est supérieur à 1 milliard de milliards de dollars. Et Dieu dit, « Et si tu marches dans mes voies, gardant mes statuts et mes ordonnances, comme y a marché David, ton père, je prolongerai tes jours. » Cependant, si vous étudiez la vie de Salomon, il n'a pas vécu longtemps. Il est mort jeune. Maintenant, je vais vous dire ceci. Plus tard, il s'est détourné de Dieu. Cela nous dit que la sagesse n'est pas un « ça », c'est un « il ». En venant au Seigneur, vous passez plus de temps avec lui. Vous passez plus de temps avec la sagesse. La sagesse est une personne, amen. Plus tard, il a quitté le Seigneur. Remarquez ce que Dieu a dit, d'accord? Je t'ai donné la main gauche, la richesse et la gloire. Mais pour la main droite, tu dois garder mes commandements. À l'époque, ils étaient sous la loi. Ils étaient sous les 10 commandements. Mais nous sommes sous la grâce. Jésus a tout accompli pour nous. C'est comme si Jésus passait votre examen et vous donnait un A+. Jésus a passé votre examen, vous a donné un A+. D'accord? C'est une façon très simple de vous dire que Jésus a tout fait et vous l'a donné. Ainsi, Jésus est connu comme le fils de ma main droite. Ainsi, vous et moi avons aujourd'hui la main droite. La bénédiction. Amen. Jésus est le fils de la main droite. Alléluia. Donc, nous avons les deux. Amen. Et puis, la Bible dit, « Alors, Salomon se réveilla. Et voici, c'était un songe. Puis il vint à Jérusalem et se tint devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. » Je veux vous dire quelque chose. C'est une preuve que vous recevrez la sagesse. Comment? Il dormait. Toute cette transaction s'est déroulée pendant qu'il dormait. Il a demandé à Dieu la sagesse. Il s'est réveillé. Eh bien, il était au lieu appelé Mont Gédéon. Il est toujours là en Israël aujourd'hui. Et le Mont Gédéon est l'endroit où se trouve le tabernacle de Moïse. La structure, les signes extérieurs de la religion, d'accord? Mais pas d'arche d'alliance. L'arche est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. La boîte oblongue est recouverte d'or. L'or dit la divinité de Jésus. Il est Dieu. Le bois à l'intérieur parle de l'humanité de Jésus. Amen. Couvert d'un couvercle propitiatoire de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus en la croix. Car c'est là que le sang est déposé. Et alors Dieu pardonne au peuple. Donc, c'est une image de Jésus-Christ. Remarquez que là où il était, il y avait une structure extérieure, les signes extérieurs de la religion, nous pouvons l'appeler ainsi. Mais c'est ainsi quand vous avez la sagesse. Alors, je ne recherche pas la religion, je recherche la réalité. Je recherche Jésus. Amen. Il s'est réveillé et il a chéri la présence du Seigneur Jésus-Christ. Les sages le recherchent. Encore. Amen. Louez le Seigneur. C'est la première chose qui est arrivée quand il a reçu la sagesse. Amen. Maintenant, regardez. Regardons cette prière. Qu'a-t-il prié? Il a prié, « Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent. » Et en hébreu, c'est un cœur qui entend. En grec, il y a une version grecque de l'Ancien Testament, juste pour info, qui s'appelle la Septante. Si vous lisez le grec dit « cardia ». Cardia veut dire « cœur ». Akouo, akouo veut dire « écouter ». Encore une fois, la même chose que l'hébreu, amen, un cœur qui écoute, pour discerner entre le bien et le mal. Maintenant, dans la Septante, dans la version grecque de ce passage, savez-vous ce qu'est discerner? Tsunami. Ce garçon. Avant de recevoir la sagesse, il a demandé à Dieu, Tsunami, cette branche de la sagesse, pour discerner entre le bien et le mal. Comme je l'ai dit, les gens peuvent voir la chose, mais ils ne peuvent pas la discerner. Certaines choses sonnent bien, ont l'air bien, ont bon goût, ont l'air prometteurs, mais ne le sont pas. Et oui, certains contrats sont comme ça. Certaines offres sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. Ils ne vous parleront pas de l'envers. Certains hommes viendront à vous, très charmants, débordants de charme, avec un corps ressemblant à celui du pasteur Lorenz, drôle comme le pasteur Marc. Ils vous font rire et tout. Ils vous charment, mais quelque chose à l'intérieur de votre esprit, son charme, ne peut empêcher le tsunami de couler. Il y a quelque chose qui cloche. Dieu vous donne cette sagesse intérieure pour savoir que quelque chose ne va pas avec cet homme. Et plus tard, vous découvrez que c'était un escroc. Il a dupé beaucoup, beaucoup d'autres dames. Amen. Pas le pasteur Lorenz, pas le pasteur Marc. Amen. Ainsi, bien des fois, vous ne pouvez pas le comprendre par vos yeux et vos oreilles. Vous le comprenez par votre esprit. Discerner, cela s'appelle le discernement. Dites discernement.
Très bien, louez le Seigneur. Maintenant, puis-je dire quelque chose? À l'époque d'Adam, Adam a nommé tous les animaux, n'est-ce pas? Revenons à la partie mémoire que Dieu veut que vous ayez tous. Je veux prier pour que vous ayez tous cela. Si vous ne voulez pas cela quand je prie, ne levez pas la main. Ne recevez pas. Dieu ne vous forcera pas à recevoir. Chaque don de Dieu est reçu. Il a besoin de votre consentement, même pour être sauvé. Si Jésus est mort sur la croix pour tous nos péchés, comment se fait-il que le monde entier ne soit pas sauvé? Parce que tout le monde ne le veut pas. Tout le monde n'y croit pas. Et Dieu ne peut pas vous sauver sans votre consentement. En fait, nous venons en quelque sorte tous les dimanches, nous montrons à Dieu, nous consentons à être aimés. Nous consentons à être guéris. Seigneur, je consens à être béni en 2023. Amen. Mais pensez-y. Il n'y avait pas de smartphone. Et il y a des centaines et des centaines et des centaines d'espèces d'animaux dans le monde. Dieu les a tous amenés à lui. Il pouvait les nommer un par un et il les a nommés un par un. Qu'importe le nom qu'il avait donné. Quand il fallait revenir au premier nommé, il n'a pas dit « Oh !» Toi, ton nom, c'est... Marco. Désolé, c'est toujours Marc qui revient. Désolé, Marc. Vous savez, ce n'est pas comme ça. Il était capable de se souvenir de tous les noms. Dans tous les cas, il pouvait s'en souvenir. C'était la magnificence de l'esprit de l'homme au début, avant qu'il ne tombe. Jésus, quand il grandissait, n'avait pas de Bible. Cela vous choque-t-il? Et d'ailleurs, si vous disiez, « Pasteur, Jésus est Dieu sous forme humaine. » Oui, mais il a grandi en tant qu'homme. Écoutez bien, il est Dieu. Béni soit la vérité éternelle pour toujours. Amen. Il est Dieu. Mais quand il est venu et est devenu un homme. D'accord? Il n'a pas fonctionné comme un Dieu, vous comprenez? Il est venu pour être le prototype, comme Adam a été le prototype du premier homme. Le premier homme est un prototype de l'homme. Jésus est venu pour être le second Adam. Un autre prototype d'une race humaine appelée nouvelle création. Il a donc grandi en sagesse, et quand il avait 12 ans, il était dans le temple. Et les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi entouraient ce jeune garçon de 12 ans, qu'ils ont été stupéfaits de sa compréhension et de ses réponses. Puis son père et sa mère sont venus et ont dit « Allons-y ». Et il est parti avec eux, suivant l'histoire. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus grandit. Vous voyez, Dieu ne grandit pas. Mais l'homme grandit. Donc, en tant qu'homme, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Toute la connaissance de la Bible qu'il avait était, en fait, dans sa ville natale, Nazareth. Chaque Shabbat, chaque jour de sabbat, tous les membres de la communauté se rendaient à l'église locale, leur synagogue locale. C'était le seul lieu dans la synagogue où il y avait le rouleau, la Bible, mais uniquement l'Ancien Testament. La synagogue avait le rouleau, mais les gens n'en avaient pas chez eux. C'était trop cher pour eux, d'accord? Alors, imaginez, chaque sabbat, Jésus écoute et écoute tout ce qu'il a appris, amen, et qu'il a mémorisé et conservé, c'est juste en écoutant. Comme Adam, il n'avait pas de smartphone pour enregistrer. Plus tard, lorsqu'il a grandi à 30 ans, il a été tenté par le diable dans le désert. Comme Adam, le premier homme a été tenté alors que tout était bon autour de lui. Tout était beau et luxuriant. Tout était brillant pour l'homme. Tout disait, c'est pour toi, pour ton bien. Et pourtant, il a péché. Jésus a été tenté par le diable dans le désert, dans un endroit désert. Et quand tout à l'extérieur semblait dire, « Tout est contre toi. » Il a pourtant obéi. Le deuxième homme a obéi. Amen. Maintenant, regardez. Le diable est venu. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il n'y a pas eu d'hésitation, rien. Il connaissait la parole de Dieu. Maintenant, imaginez certains d'entre nous. Le diable vient. « Écoute, si tu es chrétien, si tu es une nouvelle création, fais ceci ou fais cela, fais ceci. » Et puis vous dites, « Il est écrit. » Quelque chose comme ça, diable. On ne vit pas toujours de pain. Parfois, on doit manger du riz. Ou quelque chose comme ça. Je veux dire, Jésus a cité mot pour mot. Amen. Son esprit est incroyable. Et la Bible dit qu'aujourd'hui, il nous donne son esprit. Proclamez, j'ai la pensée de Christ.
Paul a également vécu à une époque où il n'y avait pas d'enregistrement, il n'y avait pas d'email, pas d'agenda pour noter, pour vous en souvenir, il n'y avait pas de smartphone, n'est-ce pas? Pourtant, il a fait sur Timothée quelques prophéties, et de nombreuses années après cela, il l'a rappelé à Timothée. Il lui a dit « Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat. » Souviens-toi des prophéties que je t'ai dites lorsque je t'ai imposé les mains. Souviens-toi constamment des prophéties. Amen. Que par ces prophéties, tu feras un bon combat contre le diable. Amen. Pouvez-vous imaginer Paul qui reçoit un autre email à distance? Peux-tu me redire les prophéties? Parce que j'ai oublié. Vous ne pouvez pas imaginer cela, n'est-ce pas? Ceux de cette époque étaient incroyables, une phrase si simple. Mais quand vous méditez dessus, vous vous dites, ils avaient une mémoire incroyable. Et nous, nous essayons de mémoriser en lisant ou en écoutant des cours sur la mémoire. Ils disent que pour mémoriser des choses, il faut mémoriser les noms des gens et tout. Imaginez quelque chose d'absurde à ce sujet. En fait, je ne veux pas me présenter à vous. Vous allez me rendre le plus absurde possible pour vous souvenir de moi, n'est-ce pas? En les rendant absurdes possibles, afin que cela puisse vous aider à vous en souvenir. Pouvez-vous imaginer cette approche appliquée à la parole de Dieu? Vous mémorisez la parole de Dieu et la rendez absurde possible pour pouvoir vous en souvenir. Non, encore une fois, c'est la voie naturelle. Je ne l'écarte pas, je dis juste que c'est la voie naturelle, pas la voie de Dieu. Quelle est la voie de Dieu, Pasteur Prince? Méditez. Méditez la parole de Dieu. Prenez un verset, savourez-le toute la journée. Amen. En route pour le travail, savourez-le, digérez-le. Ils apportent la vie à ceux qui les trouvent. La guérison à tout le corps. Oui, la santé de la tête aux pieds. Oh. Je viens de le rendre absurde, n'est-ce pas? Et vous mémorisez. Aucun mal ne t'arrivera. Je le comblerai de longs jours. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Laissez vos amis faire la compétition comme des rats. Vous gagnez la course pour devenir le rat numéro un. Ne vous lancez pas dans une compétition comme des rats. Laissez Dieu vous amener là où il veut que vous soyez. Et son approvisionnement sera là. La faveur sera là. Et le meilleur de tout, vous venez en sentant bon, en ayant bonne mine, sans stress. C'est la voix de Dieu. Amen. Que ce soit l'année 2023. Que ce soit l'année. Amen. Puis-je prier pour votre pensée après? Laissez-moi conclure, d'accord? Maintenant, vous souvenez-vous d'un garçon esclave appelé Joseph, très joli nom. Il était en prison. Et Pharaon, le roi, a eu un songe. Vous voyez, les gens du monde peuvent avoir des rêves de Dieu, mais ils ne peuvent pas interpréter car il n'y a pas de Tsunami. Le Tsunami appartient au peuple de Dieu. Lorsqu'il demande à Dieu, cela est arrivé à Daniel aussi, avec le roi Nabucodonosor. Mais Joseph était en prison, oublié, pendant un certain temps. Et puis Pharaon a eu un songe et son rêve était très intéressant. Il a eu deux séries de rêves dans la même nuit. Il a rêvé qu'il y avait sept vaches qui étaient belles et grasses. Puis les sept vaches broutaient. Puis sont venues encore sept vaches, vilaines et maigres. Il est dit, décharnées dans ma Bible, vaches maigres et décharnées. Et les sept vaches maigres et décharnées ont mangé les vaches grasses, mais elles avaient toujours la même apparence. Plus tard, Joseph interprétera que sept années d'abondance arrivent, amen, suivies de sept années de famine. Et les sept années de famine sont telles que toutes les années d'abondance seront oubliées. C'est pourquoi les vaches se ressemblaient. Je trouve cela très intéressant et c'est ma propre révélation. S'il vous plaît, ne la prenez pas. C'est ma propre révélation. C'est très intéressant que lorsque Dieu appelle les sept années d'abondance, il les appelle des vaches belles et grasses. Mais quand il parle d'années de famine, c'est laid et maigre. Aujourd'hui, le monde dit « maigre, c'est bien. Gros, c'est pas bien. » Attendez, c'est juste une blague. D'accord, je plaisante, d'accord? Ne vous fâchez pas et s'il vous plaît, ne m'écrivez pas à ce sujet. D'accord? C'est juste pour rire. Le prince devient roi de la blague, joking. Plaisanter, joking en anglais. Pasteur, vous aimez trop les jeux de mots. C'est très pénible, pasteur, je sais. C'est pourquoi il a pris toutes nos peines.
Arrêtez ! D'accord, je vais conclure. Écoutez. Alors, le roi a fait ce rêve, Pharaon a fait un rêve et personne ne pouvait l'interpréter. Tous les sages, tous les astrologues de son domaine ne savaient interpréter ça. Et puis là, le majordome a dit, je me souviens, oh là là, je me souviens. Il y a 2 ans, j'ai fait un rêve et ce jeune homme, en hébreu, l'a interprété. Et tout est arrivé. Le roi dit, amenez-le ici. Ainsi, Joseph est venu devant Pharaon. Pharaon lui a parlé des vaches grosses et maigres, mais aussi des 7 épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige, puis des 7 épis vides et maigres. Encore une fois, les épis maigres engloutissèrent les beaux épis. Il n'y a pas de logique parce que les rêves sont des rêves. Mais il y a un sens derrière eux, et Joseph a interprété, il y aura 7 années d'abondance à venir, roi, mais je conseille que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage pour gérer cela. Mettez de côté un bon 20% pendant les années d'abondance. Amen. Et cela a rendu Pharaon et l'Égypte très riches lorsque les 7 années de famine sont arrivées. Alors, suivons l'histoire. Nous allons terminer là-dessus. Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant, que le pharaon, c'est Joseph qui parle, que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Il se recommandait probablement lui-même. Si je suis choisi, c'est intelligent. Il se recommande sans en avoir l'air. C'est la sagesse. Comme Ruth. Ruth a proposé à Boaz sans proposer à Boaz, mais elle l'a proposé à Boaz. Boaz n'a jamais compris ce qui lui arrivait. D'accord, c'est la sagesse. Alors, que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Regardez ceci. Le mot « intelligent » est le mot, en hébreu, c'est l'Ancien Testament. L'hébreu, c'est « bin », d'où nous vient le mot « bina », et la femme est « hakam ». Beaucoup d'entre vous connaissent le mot « hakam ». « Hakam », c'est « sage ». Mais n'oubliez pas, il y a aussi une version grecque de l'Ancien Testament qui n'est pas souvent utilisée, appelée « septante ». Dans la septante, c'est « phronimos ». Et sage, et devinez quoi, devinez. Sunaimi. C'est en fait sunetos, l'adjectif ici, mais sunetos vient du verbe sunaimi. C'est le mot sunaimi. Choisissez un homme à qui Dieu a donné la sagesse. Pas seulement un talent naturel, pas quelqu'un qui est diplômé de l'université d'Égypte. Trouvez quelqu'un d'intelligent et de sage, parce que tous ceux qui sont diplômés d'université, aucun d'eux ne pouvait interpréter le songe de Pharaon. Mais cet esclave, qui a reçu la sagesse de Dieu, en a été capable. Amen. Regardez la réponse de Pharaon. La Bible dit, ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu? Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage, les mêmes mots que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. De la fosse à la prison, au palais, la sagesse vous fera monter. Amen. Je vais prier pour vous. Que Dieu guérisse votre esprit, amen, et vous donne le sentiment de son amour. La plus grande sagesse est de savoir que vous êtes aimé, et aimé par celui qui a donné sa vie pour vous, qui est venu pour vous. Vous savez, dans le Cantique des Cantiques, il est dit que la mariée dit au marié, j'adore ça, c'est une image de nous tous en train de parler à notre époux, notre Seigneur Jésus, parce que la Bible compare notre relation à l'époux et à l'épouse. Pas au mari et à la femme, mais à l'époux et l'épouse. Pourquoi cela ? L'époux et l'épouse, c'est quand l'amour est le plus fort, le plus véhément, le plus flamboyant, fougueux, passionné. Il aime notre amour comme ça tout le temps. Amen. Le mari et la femme, ça devient parfois plus plat, plus calme. Mais le premier miracle que Jésus a fait a été de transformer l'eau en vin lors d'un mariage. Ce qui signifie quoi? Votre mariage devient fade, comme de l'eau. Jésus peut le transformer en vin. Amen. Vin béni, enivrant, et que vous soyez tous enivrés de l'amour les uns des autres. Cela peut arriver en 2023. Nous ne nous tournons pas vers nous-mêmes, nous nous tournons vers lui, d'accord? Maintenant, la mariée dit au marié, au verset 2, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Je ne veux pas le connaître de loin. Embrasser, c'est quoi? Être très proche. D'accord, ceux qui ne comprennent pas, s'embrasser signifie très près. D'accord? Je ne veux pas connaître l'amour des autres pour Jésus et les entendre parler de leur amour pour Jésus. Je veux connaître personnellement son amour. Amen.
Puis elle l'a dit au Seigneur, « Ton amour est meilleur que le vin. » Waouh, quelle chose à dire au Seigneur. « Ton amour est meilleur que le vin. » Le vin, à cette époque, c'est quelque chose pour les célébrations. Quand ils font de grandes fêtes, ils sortent le vin. Amen. Et le vin, c'est aussi une bonne récolte, c'est-à-dire la prospérité pour tous les agriculteurs. Beaucoup d'entre eux étaient des agriculteurs. La mariée dit, « Ton amour est meilleur que tous les plaisirs terrestres. » Je prie pour que vous le sachiez chaque jour. C'est merveilleux de se réveiller quand les choses vont mal. Son amour est toujours vrai. Il vous aime toujours. Et d'une manière ou d'une autre, cela vous donne l'éclat de vous élever au-dessus des circonstances. Cela vous permet de savoir que tout ira bien. Quand vous savez qu'il vous aime, son regard est sur vous. Quand son regard est sur vous, il l'est sur vous du début à la fin. Amen. Mais je ne peux pas terminer ici en ne vous montrant pas la réponse du Seigneur. Vous allez vous dire que c'est génial. Regardez sa réponse quelques chapitres plus tard. Savez-vous ce que le Seigneur lui dit? Le Seigneur lui dit ceci. « Que de charme ont tes amours, ma sœur, ma fiancée. Nous sommes à la fois sa sœur et sa fiancée, son épouse. Amen. Que tes amours sont meilleurs que le vin. En tout, Jésus nous dépasse. Nous disons au Seigneur, « Ton amour vaut mieux que le vin. » Il se tourne vers nous et dit, « Quel que soit le peu d'amour que vous avez pour moi, combien votre amour est meilleur ? Combien votre amour pour moi est meilleur que le vin ?» Il nous dépasse toujours. J'ai demandé à Dieu un partenaire de vie il y a de nombreuses années. Dieu m'a donné Wendy. L'autre jour, je l'ai regardée et je pense qu'elle est de plus en plus belle. Je le pense vraiment. Et je pense que je tombe de plus en plus amoureux d'elle. Je m'envie. Toutes ces années, nous sommes mariés depuis plus de 27 ans maintenant. Amen. Et j'aime toujours cette femme. J'ai d'abord demandé à Dieu un petit ministère pour aider les gens. Dieu m'a donné vous tous, cette église. Ils nous dépassent toujours. Une fois, ils ont amené des enfants à Jésus. Vous le savez tous, si vous lisez les évangiles. Les mères amenaient leurs petits à Jésus. Et ils ont demandé à Jésus d'imposer les mains sur les petits. Vous savez ce que dit la Bible? Jésus les embrassa. Il nous dépasse toujours. Il nous dépasse toujours. Amen. Même en amour, il dit, le peu d'amour que tu as, ce peu est meilleur que le vin pour moi. Est-ce que nous le pensons nous-mêmes qu'il apprécie notre amour? Ou vous vous dites, mon amour n'est pas aussi fort que celui du pasteur Marc, du pasteur Lorenz et tous les autres gens ici. Non, non, quel que soit le peu d'amour que vous avez, le Seigneur l'apprécie. Et il dit que ton amour, vous lui dites, Seigneur, ton amour est meilleur que le vin. Et son amour est parfait, le nôtre ne l'est pas. Mais il dit à propos de notre amour imparfait que tes amours sont meilleurs que le vin. Oh, je peux m'asseoir ici et continuer, amen, pour le reste de l'année. Alléluia. Mais je vais vous congédier avec les bénédictions de Dieu. Pour ceux d'entre vous qui ont perdu leur pensée et qui ne le savent pas encore, nous vous la rendrons au nom de Jésus. Levez-vous, louez le Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, mes amis, si vous êtes ici et que vous dites que, Pasteur Prince, je n'ai jamais placé ma confiance en Jésus, je pense que, quand vous mentionnez que mon esprit est mort, je pense que c'est moi. Je suis coupé de Dieu. Mais je sens que Dieu m'appelle, qu'il m'attire avec son amour. Et je crois en ce que le Christ a fait pour moi en cette croix. Il a porté mes péchés. Merci. Merci, Père Céleste, de m'avoir ouvert les yeux aujourd'hui. Amen. Sunaimi. La sagesse est entrée dans mon cœur. Si c'est vous, faites cette prière avec moi maintenant. Si vous voulez mettre votre confiance en Jésus-Christ, faites cette simple prière et vous naîtrez de nouveau. Dites, Père Céleste, merci de m'aimer. Ton amour vaut mieux que le vin. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés. Il a porté tout mon jugement et toute ma condamnation. Tous mes péchés ont été ôtés quand j'ai été déclaré juste par toi. Tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Tous mes péchés sont effacés. Je suis totalement pardonné parce que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour toujours. Merci, Père. Cette année, j'entre dans 2023 grandement béni, hautement favorisé. Et tu m'aimes tellement. Dévoile de plus en plus à quel point je suis aimé de toi, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen, louez le Seigneur. Laissez-moi prier pour vous. Maintenant, certains d'entre vous peuvent prendre des médicaments. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie, c'est quelque chose de grave, je le comprends. N'arrêtez pas vos médicaments. Mais je vais prier pour vous parce que l'oubli, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une malédiction. D'accord ? Et Christ nous a rachetés de la malédiction de l'oubli. Ainsi, la manifestation peut se produire, comme ce que dit Jésus. Comment la parole de Dieu se manifeste comme des récoltes, 30 fois. Vous pouvez encore oublier certaines choses, puis 60 fois. Cela se manifeste plus, puis au centuple. Amen. Et ce n'est pas à moi de décider. Aucun de nous ne peut dire quand nous aurons le centuple, mais continuez à croire. Continuez à confesser, continuez à déclarer que j'ai la pensée de Christ. Amen. J'ai la sagesse de Dieu. Continuez à demander à Dieu la sagesse. Amen. Levez vos mains, vous tous ici présents. Père, c'est ce Ruach. Sentez-vous cela, le vent? En ce moment, il y a un vent qui souffle à l'intérieur, mes amis. C'est le Ruach, le vent, le Saint-Esprit. Et cela s'appelle aussi l'esprit de sagesse et de révélation. Père, au nom de Jésus, comme tu as vu qu'il y avait des ténèbres au début, et tu as dit qu'il y ait de la lumière. Père, au milieu de tous ces esprits endormis, inutilisés, latents, des esprits devenus décrépits, des cerveaux qui, selon la science, ont vieilli, ont rétréci. Je te remercie, il y a un Dieu pour qui rien n'est impossible. Je te remercie, Seigneur, car l'un de tes bienfaits est le renouvellement de la jeunesse, comme les aigles. Donc, dès le début de l'année, Père, au nom de Jésus, nous demandons maintenant, touche la pensée des gens. Tous ceux qui écoutent ma voix, Père, touche leur pensée, touche ma pensée, touche nos pensées, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et fais que tous les points morts, toutes les zones mortes, inutilisées, latentes, revivent pour être ressuscitées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, augmente notre capacité cérébrale. Amen. Afin qu'elle ne s'amenuise pas, Seigneur. Même si les années passent, Père, ce qui est impossible avec les hommes est possible avec toi, Père. Utilisez de plus en plus le cerveau que tu nous as donné, Seigneur. Amen. Et Père, nous prions au nom de Jésus que tu accordes à tous ceux qui ont faim le Sunaisis, cette sagesse Sunaimi. Cette sagesse, Seigneur, qui vient de toi, cela nous aide à discerner la vraie nature des choses afin que nous ne soyons pas trompés. Amen. Père, accorde-nous cette sagesse. Que d'autres diront de nous, qui peut trouver une femme aussi sage et perspicace? Qui peut trouver vos patrons, vos employeurs? Vos clients verront en vous une sagesse et une intelligence qui les attireront vers vous, parce que la sagesse de Dieu est en vous. Père, élève-les, Seigneur, comme des gens de sagesse. Sunaimi. Alléluia. Merci, Père. Au nom de Jésus. Et quand tu restaures, nous te remercions. C'est toujours à 120% plus grand. Au nom de Jésus. Nous le recevons. Amen, amen, amen. Louons le Seigneur. Ok, vous avez vos trois requêtes. Prêt? Amen. Trois requêtes, pensez-y en ce moment alors que nous nous présentons devant Dieu. Maintenant, écoutez, je vais prier pour vous certaines choses avec lesquelles vous pourriez ne pas être d'accord. Par exemple, je vais prier pour que vous ne mouriez pas avant votre heure cette année, d'accord? Vous ne voulez pas, vous dites non, je ne crois pas à ce genre de choses. Ne comptez pas sur moi, d'accord? Dieu ne forcera pas ses bénédictions. Je vais aussi prier pour la protection de Dieu. Si vous ne croyez pas à la protection, vous n'avez pas à lever la main. Pas besoin de dire Amen, d'accord? Cela n'entre dans votre vie que lorsque vous dites Amen. Cela signifie que vous dites « Amen ». C'est le mot hébreu pour la foi. Amen. Abraham a cru Dieu, c'est Amen. D'accord? Êtes-vous prêt? Très bien, cette année à venir. Père, nous demandons, Père, au nom de Jésus, que ces trois requêtes que nous te présentons se manifesteront au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les amis, apportez la requête devant Dieu. Nous sommes en sa présence merveilleuse. Je ressens l'onction du Saint-Esprit. On sent le vent venir, c'est très rafraîchissant. Pouvez-vous le sentir? Ça y est encore. Pouvez-vous sentir ce vent? C'est comme une brise fraîche du soir qui souffle dans cet endroit. Amen. Qui souffle aussi au MBS, partout d'où vous nous suivez. Même en ce moment, à la GRC, c'est ce qui se passe. Partout, chaque fois que vous regardez ceci, cela se produit. Ressentez-vous cela, peuple de Dieu. Sentez-vous cela. Alléluia. Maintenant, apportez votre première demande. Tout doucement, à voix basse, dites simplement au Père, c'est ma requête. Apportez votre deuxième requête. Dites, Père, c'est ma demande. Votre troisième demande. Et Père, nous te remercions de nous avoir entendus, Seigneur, et que tu enverras tes réponses rapidement. Tu enverras tes réponses du ciel, Père. Amen. Sur la terre, il sera établi. Au nom de Jésus. Amen. Et je veux dire ceci. Certains d'entre vous en auront la manifestation très rapidement, le premier mois, le deuxième mois. Lorsque cela se produit, écrivez-nous et faites-le nous savoir, d'accord? Ferez-vous cela? Louez le Seigneur. Amen. Levez vos mains, vous tous ici présents. Cette année à venir, je prie pour vos familles et vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que vos familles et vous soyez dans le lieu sacré du Très-Haut, sous l'ombre, la protection, l'abri du Très-Haut. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quoi qu'il arrive, cette année, cela ne vous approchera pas. La récession ou quoi que ce soit, cela ne vous touchera pas et ne vous affectera pas négativement. Au nom de Jésus, Père, je prie, Seigneur, que tu libères plus de provisions que nécessaire, Seigneur, pour ton peuple. Pas seulement pour leurs propres besoins, Seigneur, mais il en reste beaucoup pour être une bénédiction pour les autres, Seigneur. Et pour l'évangile de Jésus-Christ, qu'ils ne feront pas de compromis, Père, sur la dîme, en semant, en moissonnant et en te donnant, Seigneur. Car tes voies ne failliront jamais. Père, au nom de Jésus, ils deviendront des donneurs et des bénisseurs, Seigneur. Alléluia, partout où ils vont. Et Père, je prie au nom de Jésus que cette année soit si pleine de faveurs comme tu as béni Nephtali, satisfait de la faveur, Seigneur. Je prie pour que chacun qui écoute ma voix, Seigneur, que leur famille et eux soient satisfaits et qu'ils soient pleins de la faveur de Dieu, afin que les gens soient attirés vers eux, sans savoir pourquoi, juste parce que la faveur de Dieu est sur vos proches et vous. Amen. Que le Seigneur vous protège, ainsi que vos proches tout au long de cette semaine. Aucun de vous ne mourra avant son heure. Vous mourrez seulement si Jésus tarde, si Jésus ne revient pas. Vous mourrez quand vous serez satisfait. Au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, le Seigneur tourne son visage vers vous, son sourire vers vous, accorde au vôtre et à vous la paix tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous reverrai encore et encore jusqu'à la fin de l'année. D'accord? Que Dieu vous bénisse.